Je suis dans le chapitre 11 du Lévitique, où il a été question des animaux purs, qui peuvent donc être consommés, et ceux qui sont impurs. Cette liste, donnée par l'Éternel, avait entre autres pour but de séparer son peuple des autres nations. Même aujourd'hui, le terme « cachère » et les aliments ainsi définis séparent les Juifs des autres groupes ethniques. Dieu enseignait aux Israélites qu'ils vivaient dans un monde dégénéré, où il fallait sans cesse faire le bon choix et ne pas suivre l'inclination de son cœur, de son raisonnement, mais s'en tenir à ce que lui, l'Éternel, avait ordonné. Les textes sacrés encouragent les croyants à méditer la parole de Dieu, comme par exemple ce passage. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Fin de citation. Je ne voudrais pas aller jusqu'à dire que Dieu a choisi les ruminants parce qu'une vache qui rumine est un symbole de la méditation, mais quand même, quand on y réfléchit, on peut faire un rapprochement. Je continue le texte. « Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. Le chameau, la gerboise ou le lièvre qui ruminent mais n'ont pas le sabot fendu, vous les considérerez comme impurs. Vous tiendrez aussi pour impur le porc qui a bien le sabot fendu mais qui ne rumine pas. Vous ne mangerez pas la viande de ces animaux. Vous ne toucherez même pas leurs cadavres. Vous les tiendrez pour impurs. » Versets 4 à 8. Le texte interdit de manger de quatre espèces de quadrupèdes qui ne présentent que l'un des deux caractères voulus. Les Arabes consomment le chameau, mais les Hindous considèrent sa chair comme impure. La gerboise est un rongeur à pattes de devant très courtes, à longs poils, gris ou brun sur le dos, blanc sous le ventre, qui tient du lapin et de la marmotte. Elle habite dans les infractuosités des rochers, se nourrit de racines et de verdure. Les Arabes en mangent, mais n'en servent pas à leur hôte. La gerboise et le lièvre n'ont pas plusieurs estomacs, ce qui est la caractéristique des ruminants. Mais ils ont un mouvement particulier de la bouche qui a longtemps fait croire qu'ils remâchaient ce qu'ils avaient avalé. La présente classification est fondée sur des critères extérieurs faciles à observer. Il s'agit de bêtes qui remuent leur mâchoire même sans mastiquer de nourriture, ou bien qui mâchent longuement avant d'avaler. Quant aux porcs, un grand nombre de peuples de l'Antiquité, égyptiens, arabes, phéniciens, syriens, le regardaient comme un animal impur parce qu'il se complaît dans la bourbe, qu'il se repaît des plus dégoûtantes ordures et que sa chair communique des maladies. Encore aujourd'hui, les chrétiens coptes et druzes s'abstiennent de la viande de porc. Et Mohammed l'a interdit à ses disciples. Aucun carnivore n'est mentionné parce qu'ils sont d'emblée éliminés, puisqu'ils ne ruminent pas. Je continue le texte. « Vous pourrez manger tous les poissons qui peuplent les mers et les rivières et qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous aurez en abomination tout ce qui n'a pas de nageoires ni d'écailles, parmi tout ce qui grouille et qui vit dans les mers et dans les rivières. Vous n'en mangerez pas la chair et leurs cadavres vous seront en abomination. Tout animal aquatique dépourvu de nageoires et d'écailles sera pour vous une abomination. » Versets 9 à 12. La règle est simple. Elle repose sur le sentiment instinctif de repoussoir. Ils seront pour vous une abomination. La loi ne fait que confirmer l'impression naturelle. Tout poisson d'eau douce ou salé pouvait être mangé s'il avait nageoires et écailles. Les nageoires seules ne sont pas une marque suffisante. Ainsi, l'anguille a des nageoires, mais comme elle n'a pas d'écailles, elle est exclue. Il en est de même du silure, un autre poisson sans écailles, qui se trouve dans la mer de Galilée. C'est vrai qu'une anguille que vous pêchez dans le Rhône et que vous mangez ne vous fera aucun mal. Pourtant, si on examine l'anatomie externe des poissons vénéneux et venimeux, comme les murènes, raies armées, rascasses et vives, dans la majorité des cas, il manque soit des écailles, soit des nageoires, et dans les espèces extrêmement vénéneuses, il manque les deux. Même aujourd'hui, les Égyptiens regardent comme malsain tout poisson sans écailles. Par là même, aussi se trouvent exclus coquillages, mollusques, crustacés, cétacés, qui n'ont pas de nageoires ni d'écailles. Il y a quelques années de cela, un journal de la Croix-Rouge relevait que les coquillages étaient responsables jusqu'à 60% des cas d'hépatite virale. Il n'y a rien d'étonnant à cela quand on sait qu'une huître filtre jusqu'à 100 litres d'eau par jour et concentre les virus et les produits toxiques présents dans les eaux polluées de notre littoral. On peut retrouver des dizaines de milliers de fois plus de pesticides dans une huître que dans l'eau où elle se baigne. De plus, les mollusques ont un rôle important comme hôte intermédiaire dans de nombreuses parasitoses. Les Juifs n'en mangent pas à cause de la loi de Moïse. Moi, j'en mange à mes risques et périls. Une fois installés en Palestine, les poissons jouèrent un rôle important dans l'alimentation du peuple d'Israël. Ils provenaient de la Méditerranée, du lac de Galilée et du Jourdain. Il y avait même l'une des portes de Jérusalem qui s'appelait la porte des poissons, car c'est par là qu'ils arrivaient. Je continue le texte. Voici les oiseaux que vous aurez en abomination et que vous ne mangerez pas. L'aigle, le gypaète et le vautour, le milan et toutes les espèces de faucons, toutes les variétés de corbeaux, l'autruche, la chouette, la mouette et toutes les espèces d'épervier, le hibou, le cormoran, le chat-huant, l'effraie, le pélican, l'orfraie, la cigogne, les différentes espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris. Versets 13 à 19. Ici, pas de règles ni de caractères généraux, mais une simple énumération des espèces immondes. Il y en a 19 et ce sont tous des oiseaux carnassiers dont plusieurs se nourrissent de corps morts et d'immondices. L'aigle, le roi des animaux, ouvre la liste. Quoi qu'on en dise, cet oiseau dévore les corps morts encore frais. Il y a en Orient des peuplades à qui la chair de l'aigle n'inspire aucune répugnance. L'orfraie est moitié aigle et moitié vautour. Cet oiseau est bien placé dans cette liste. Il mérite son nom car il a l'habitude d'emporter dans les airs les os d'animaux que d'autres oiseaux de proie ont dépouillés de leur chair et de les laisser tomber sur les rochers pour les casser. Il peut alors en dévorer la moelle dont il est très friand. Le vautour est très commun en Palestine. Le milan se trouve partout en Syrie. Il se nourrit de corps même en décomposition. Les corbeaux incluent de nombreuses espèces. Ils mangent les cadavres. L'autruche est connue pour sa voracité qui lui fait avaler même des pierres, du plastique et des morceaux de métal. La mouette abonde sur les côtes de la Syrie et se nourrit de détritus. Le pélican donne à ses petits les poissons qu'il a pris et qui ont séjourné dans la poche de son bec. L'orfraie est un vautour très ordinaire, en Orient et très repoussant, un charognard ayant une odeur infecte et la tête chauve. La cigogne, son nom veut littéralement dire « la pieuse » à cause de son attachement pour ses petits. Comme les Arabes, le texte met la chauve-souris au nombre des oiseaux, quoi qu'il soit un mammifère. Malgré son odeur repoussante, elle était mangée par divers peuples de l'Antiquité. Bien que ces animaux volants ne soient pas très appétissants, l'interdiction de les consommer est avant tout d'ordre religieux. Je continue le texte. Vous aurez en abomination tout insecte ailé marchant sur quatre pattes, sauf ceux qui ont au-dessus de leurs pattes des membres qui leur permettent de sauter sur le sol. De ceux-là, vous pourrez en manger. Ainsi, vous pourrez manger les différentes espèces de sauterelles, de criquets, de grillons et de locustes. Mais tous les autres bestioles ailées marchant sur quatre pattes seront une abomination pour vous. Versets 21 à 23. Ces bestioles font partie d'une quatrième catégorie qui est entre l'oiseau et l'insecte proprement dit. Ces insectes hybrides sont tous déclarés impurs, à l'exception de quatre espèces de sauterelles dont les noms signifient respectivement « innombrable »,« dévorant », »,« qui galope », »,« qui saute ». Le plus souvent, on commence par les sécher, puis on les frit en les faisant revenir dans du beurre ou on les mélange à de la farine pour en faire des gâteaux. Vous pouvez essayer, car il est bien dit de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je continue le texte. « Ces animaux vous rendront impurs, et si vous en touchez le cadavre, vous serez impurs jusqu'au soir. Quiconque prend en main quelque partie de leur cadavre devra laver ses vêtements et restera en état d'impureté jusqu'au soir. Vous tiendrez aussi pour impur tout animal dont le sabot n'est pas fendu ou qui ne rumine pas. Quiconque les touchera sera impur. Tout quadrupède qui marche sur la plante des pieds sera impur pour vous. Quiconque touchera leur cadavre sera en état d'impureté jusqu'au soir. Celui qui transportera leur cadavre lavera ses vêtements et restera impur jusqu'au soir. Vous tiendrez ces animaux pour impurs. » Versets 24 à 28. Il s'agit ici de contamination par le contact. Le simple toucher rend souillé jusqu'au soir et oblige seulement à un bain, ce qui n'est pas indiqué ici parce que cela va de soi. Ce sera spécifié plus loin. Mais si l'on a porté un cadavre ou une partie de celui-ci, on doit de plus laver ses vêtements. Ceux qui négligeaient ces prescriptions devaient, pour réparer cette omission, offrir un sacrifice d'expiation. Dans le domaine du contact, un prophète de l'Ancien Testament pose un principe très important. Je lis le passage. « Si un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande sainte, et que ce pan de vêtement entre en contact avec du pain, avec un mets cuit, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré ?»« Non, » répondirent les prêtres. Si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche à l'un de ses aliments, ceux-ci seront-ils rendus impurs par là ? Oui, répondirent les prêtres, ils seront impurs. Fin de citation. La pureté ou la sainteté ne se communique pas par le contact. Par contre, l'impureté, le péché, oui. En d'autres termes, ce qui est pur ne peut purifier ce qui ne l'est pas, tandis que ce qui est impur va souiller ce qui était auparavant pur. Ce principe s'applique dans tous les domaines de la vie et dans toutes les couches de la société. Un litre d'eau infecte ne deviendra pas potable si on lui rajoute de l'eau propre. En revanche, une seule goutte contaminée rendra une bouteille d'eau imbuvable, c'est-à-dire dangereuse pour la santé. Un enfant atteint de la rougeole ne guérira pas au contact d'un enfant en bonne santé. Ce sera le contraire. Et c'est celui qui était sain qui tombera malade. Il est très connu que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et non l'inverse. La pente va toujours dans le même sens, en bas, vers le mal. La grande exception était Jésus-Christ. À son contact, les malades guérissaient et les lépreux redevenaient purs. Je continue le texte. Voici la liste des petites bêtes qui se meuvent sur le sol et que vous devrez considérer comme impures. La belette, la souris et les différentes espèces de lézards. Le gecko, le lézard ocellé, le lézard vert, la limace et le caméléon. Ces bêtes qui grouillent sur le sol seront impures pour vous. Quiconque les touchera quand elles sont mortes sera en état d'impureté jusqu'au soir. Versets 29 à 31. Il n'est parlé ici que de la souillure qui résulte du contact avec les petites bestioles qui se meuvent sur le sol. 8 espèces sont indiquées comme impures et ce sont les plus grosses. Ce sont les animaux à pieds courts dont la marche ressemble à un rampement et qui occupent un degré inférieur dans l'animalité. Je continue. Tout objet sur lequel tombera l'une de ces bêtes mortes sera impur, qu'il s'agisse d'un ustensile en bois, d'un habit, d'une peau ou d'un sac. Bref, tout objet destiné à un usage quelconque sera passé à l'eau et restera impur jusqu'au soir, puis il redeviendra pur. Si l'une de ces bestioles mortes tombe dans un récipient de terre cuite, tout son contenu deviendra impur et vous briserez le récipient. Si l'eau contenue dans ce récipient a été versée sur un aliment comestible, celui-ci devient impur, de même que toute boisson, quelle qu'elle soit, et quel que soit le récipient dans lequel elle se trouve. Tout objet sur lequel tombera le cadavre d'une de ces bêtes sera impur. S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, ils seront mis en pièces, car ils sont impurs, et vous les tiendrez pour tels. Toutefois, les sources et les puits constituant une réserve d'eau resteront purs. Seul celui qui touche le cadavre sera impur. Versets 32 à 36. Telle est la rigueur de la règle que même des objets de cuisson de grande valeur y sont soumis. À cette époque, il devait être fréquent pour un rongeur de pénétrer dans la cuisine, de tomber dans un ustensile de cuisine et d'y mourir. Tout plat en faïence en contact avec un cadavre devait être détruit et son contenu jeté. S'il s'agissait d'un récipient en métal, il fallait le nettoyer à fond. On comprend sans peine qu'une source ou un puits, dont l'eau se renouvelle sans cesse, ne serait pas polluée par une de ces petites bêtes qui tomberait dedans. C'est ainsi que Dieu apprenait l'hygiène à son peuple, dans le domaine de la préparation des aliments. En même temps, il lui enseignait la sainteté. Dans le système de la loi de Moïse, la propreté venait tout de suite après la sainteté, et ceci s'appliquait au moindre détail de la vie domestique. De cette manière, l'Éternel protégeait son peuple de la contamination et de la pollution de tous ordres. Je continue. Si une partie de leur cadavre tombe sur une semence végétale quelconque, celle-ci restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur du grain et qu'il y tombe un de ces cadavres, vous la tiendrez pour impure. Versets 37 à 38. Nous quittons la cuisine pour nous rendre dans les champs. Si la semence est sèche, l'impureté est absorbée par la terre où elle est semée. Par contre, si la semence a été humectée et amollie, la souillure a pénétré à l'intérieur et la semence doit être jetée. Je continue. Si l'un des animaux qui vous sert normalement de nourriture vient à mourir, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura mangé de sa viande lavera ses vêtements et restera en état d'impureté jusqu'au soir. Il en est de même pour celui qui transportera le cadavre de la bête. Versets 39 à 40. Il s'agit ici du cadavre des animaux purs, morts naturellement ou par accident. Je continue. Toute bestiole qui se meut à ras de terre vous sera en abomination. Vous n'en mangerez pas. Qu'elle rampe sur son ventre, qu'elle se déplace sur quatre pattes, ou qu'elle ait beaucoup de pattes, de tout ce qui se meut à ras de terre, vous n'en mangerez pas, et vous les aurez en abomination. Ne vous faites pas vous-même prendre en abomination à cause de l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras du sol, ne vous rendez pas impurs par elles pour vous trouver en état d'impureté à cause d'elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Comportez-vous en gens saints et soyez saints, car je suis saint, et ne vous rendez pas impur par l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras de terre. Versets 41 à 44. À partir d'ici, il s'agit d'une récapitulation concernant les animaux terrestres et une exhortation finale. Le mot « ramper » qui revient si souvent dans ces versets est important. C'est décidément le contact avec le sol qui rend ces êtres souillés depuis le serpent qui le touche, de toute la moitié inférieure de son corps, jusqu'aux reptiles qui marchent à quatre pattes. Les Israélites étaient des gens saints du fait de leur vocation de rendre un culte à l'Éternel. Que Dieu soit saint signifie qu'il fait l'objet d'une vénération, mais aussi qu'on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Il faut respecter qui il est et pour cela remplir certaines conditions lorsqu'on veut l'honorer. C'est au respect de ces conditions que les Israélites sont invités par cet impératif « Soyez saints ». Ici, les conditions de sainteté sont d'ordre rituel ou cérémoniel. Ailleurs, elles ont un caractère moral. Cette expression « Soyez saints » est reprise par l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament, mais sous la Nouvelle Alliance. Les conditions de sainteté ne sont plus que d'ordre moral. Je continue le texte. « Car je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Verset 45. En fin de compte, l'Éternel a délivré Israël de l'esclavage en Égypte pour devenir son Dieu et ainsi pour qu'il devienne son peuple et qu'il lui rende un culte. Mais pour cela, il faut que les Israélites respectent les règles de sainteté. De la sorte, l'exhortation « Soyez saints » se fonde sur la délivrance accordée par Dieu. L'Éternel dit en substance « Je vous ai délivré de l'esclavage afin que vous deveniez saints ». C'est en se pliant aux règles de la loi, qu'elles soient morales ou cérémonielles, qu'Israël réalise l'objectif final de son Dieu. Je finis ce chapitre 11. Telle est la loi concernant les quadrupèdes, les oiseaux et tout être vivant qui se meut dans les eaux ou qui se meut à ras de terre, afin qu'on sépare ce qui est impur de ce qui est pur et qu'on distingue les animaux qui peuvent être mangés de ceux qu'on ne doit pas manger. Versets 46 à 47. C'est Dieu qui décide et établit la distinction claire et nette entre les animaux purs et impurs. L'obéissance à ces directives constitue pour tout Israélite un rappel permanent de la sainteté de l'Éternel et des égards qui lui sont dus, notamment l'obligation d'être pur pour pouvoir s'approcher de lui. En respectant les règles de pureté rituelles, la nation d'Israël se distingue des autres peuples comme celui qui appartient à l'Éternel. Ces prescriptions ont un caractère provisoire et préparatoire, comme le confirme tout le Nouveau Testament. J'en cite un passage. « En effet, il n'y a là que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Ces rites, d'ordre matériel, ne devaient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. » Fin de citation. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.